dès les 5 à 12 ans et les 2 à 4 ans. Je vous invite, ceux qui ne sont pas au courant, il y a une garderie qui est disponible ce côté-là. La porte n'est plus là, je suis mêlé. Je reviens de vacances, puis je vous dis, je suis complètement désorienté. Au travail, hein, ceux qui reviennent au travail de vacances, c'est quoi mes codes, là, tu sais, les mots de passe, là, t'es perdu. Alors ce matin, c'est une joie aussi d'accueillir M. Sébastien Valade, son épouse Chantal, leur petite fille Petra, qui doit être en haut, j'imagine, oui. Alors c'est une joie, c'est M. Sébastien Valade de l'Église baptiste évangélique de Pont-Rouge, qui est près de Québec, qui va nous apporter la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Alors, Sébastien, je t'inviterais, qui était membre ici à l'Église évangélique baptiste de Longueuil et depuis 3 ans exerce le ministère pastoral à Pont-Rouge. Bienvenue Sébastien, bienvenue Chantal, ça va être un privilège, une bénédiction de vous entendre ce matin nous parler de la parole de Dieu.
Ah ouais. Vous avez peut-être entendu ça souvent, je ne sais pas si chaque fois qu'un prédicateur est invité le dit. Je sais que quand j'ai l'occasion de prêcher comme ça, de dire que c'est un privilège que d'être ici, les mots sont pesés. Des mots, peut-être que vous entendez ça souvent et vous vous dites, ben oui, il est habitué de prêcher, il n'y a pas de problème, mais la réalité est tout autre. C'est toujours un privilège que de s'installer derrière une chaire comme ça, puis d'avoir le privilège d'enseigner la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. C'est un bonheur pour nous d'être ici aussi ce matin. Le bonheur est teinté un peu de ma nervosité, vous le sentez peut-être déjà dans ma voix. Je le dis tout de go parce que, vous allez le savoir de toute façon parce que vous l'entendez, mais le privilège s'accompagne de ça aussi pour moi de prêcher la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand on a une responsabilité aussi grande, on veut aussi faire bien notre travail. On veut faire en sorte que Dieu ressorte davantage que la personne qui est derrière la chaire ici. Et c'est dans ce sens-là que je vais aller ce matin. Donc, ma nervosité commence à s'estomper déjà. Je savais que ça partirait assez vite, mais on verra ensemble. Je vais prier. Je vous invite déjà à préparer vos textes, vos Bibles, à tourner dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, des versets 13 à 20. Je vais les lire plus tard un petit peu, mais si vous préparez tout de suite vos textes, vous allez être déjà avec moi quand je vais être rendu à lire. Alors, je vais prier, puis ensuite, on va pouvoir procéder ensemble. Seigneur Dieu, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous transformer. Seigneur, tu nous as pris comme on était. Tu nous as acceptés comme on était, pécheurs misérables dans l'état dans lequel on était. Mais la chose qui est le plus important pour moi de comprendre ce matin avec ce texte-là, c'est que tu ne veux pas qu'on en reste là. Tu ne veux pas qu'on reste à cet état de misérable et de pécheur en dépression spirituelle, Seigneur. Tu veux nous guérir. Tu veux, Seigneur, qu'on soit des ambassadeurs joyeux qui manifestent un Dieu vivant. Et Seigneur, on veut te demander de faire parcourir ce chemin-là. Je dis souvent dans mes prières, Seigneur, de faire passer la parole de ma tête à mon cœur, qui est le chemin certainement le plus long entre deux points sur cette terre. Seigneur, on comprend bien des choses, on connaît bien des choses, on a accès à une foule d'informations, mais on a besoin d'apprendre à te connaître davantage pour être transformé par toi. C'est ce que je te prie ce matin par cette parole qu'on va regarder ensemble. Amen. En guise d'introduction, deuxièmement, je suis à l'église de Pont-Rouge, évidemment. L'église de Pont-Rouge est une quinzaine de personnes devant moi. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Et je ne suis pas habitué d'avoir des projecteurs dans les yeux comme ça. Alors, si vous me voyez chercher un petit peu, c'est peut-être ces choses-là qui vont jouer un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les remèdes de grand-mère. Hein, on a des recettes de grand-mère pour guérir à peu près toutes sortes de choses. Mais si on recule un peu dans le passé, il y avait toutes sortes de remèdes pour guérir toutes sortes de choses. Puis, parfois, quand on avait mal à l'estomac un certain temps, on disait qu'il fallait placer un crapaud vivant sur l'estomac du malade jusqu'à ce que le mal passe. Peut-être que la nausée remplaçait le mal de ventre. C'est peut-être pour ça que ça guérissait aussi vite. Des fois, on disait que pour faire tomber la fièvre, il fallait faire peur à quelqu'un. Hein? Il fallait faire une grande peur. La personne, la fièvre tombait. Moi, j'ai appris que c'était pour le hockey, mais en tout cas, c'est... Les temps changent. Pour les cœurs sensibles, ça va pas aller en s'améliorant. À un moment donné, on faisait fondre une chandelle de suif. On mettait ça avec un litre de vin rouge et on prenait cette mixture-là pour guérir des rhumes. J'aime mieux le sirop qu'on veut aujourd'hui, je peux vous dire. Parfois, on prenait du cérumen d'oreille, on le mélangeait à de l'huile de noix pour faire juste passer les engelures. Je préfère encore les crèmes qu'on a aujourd'hui. Pour garder les dents saines. Les dentistes aujourd'hui seraient choqués d'entendre ce genre de choses-là. On prenait de l'eau de vie salée qu'on faisait bouillir et on buvait ça pour faire à tous les 8 jours. Au lieu de se brosser les dents 3 fois par jour, on prenait une mixture tous les 8 jours. Contre la rage, on prescrivait aux gens d'aller prendre des bains de mer. Gros remède pour les gros problèmes. On faisait fondre de la graisse de chat, on appliquait ça sur les lumbagos aussi quand on avait mal. Et finalement, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on enfonçait des vers de terre dans les oreilles contre la fièvre. Non, je pense que j'ai gardé le pire pour la fin encore. On écrasait des graines de carottes, on mélangeait à l'urine pour traiter les infections. Je ne sais pas pour vous, mais les humains ont toujours cherché des remèdes à leurs maux, à leurs maladies, à leurs faiblesses. Il en est la même chose pour les faiblesses spirituelles. Hein? Là, on parle de maladies physiques, mais la Bible nous parle de maux spirituels qu'on peut avoir et qu'on a besoin de traiter avec différents remèdes. Il y a un seul remède, Jésus-Christ, mais il y a des moyens que Dieu a donnés, a mis entre les mains de son Église, pour qu'on soit guéri de nos maux spirituels, de nos dépressions spirituelles. Des fois, on voudrait une formule magique. Hein? On serait porté à dire, on voudrait que quelqu'un prie tout de suite, puis tous nos problèmes se sont évanouis, tous les problèmes s'effacent immédiatement du moment où cette prière-là est faite. On dirait qu'on veut des paroles. On dirait qu'on voudrait avoir des phrases magiques, des paroles magiques pour tout de suite guérir, être établi. Hein, ça ne va pas bien depuis des mois, des semaines, des années. Puis là, tout d'un coup, on voudrait qu'une prière règle tous nos problèmes. Puis après ça, on pourrait revenir tout de suite à nos vieilles habitudes. On vit dans un monde d'instantané, on veut guérir les choses immédiatement, on veut que tout se passe bien. On ne veut pas se sentir mal, on ne veut pas être mal, on veut toujours se sentir bien. Et que quand on ne se sent pas bien, on prend une pilule et tout est réglé. C'est un monde dans lequel on veut faire tout rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les régimes amaigrissants, ou les régimes plutôt drastiques qu'on veut essayer de faire. Hein? On voudrait maigrir tout de suite. On voudrait que dans une semaine, on ait perdu tout le poids qu'on a fait, qu'on a pris, pendant toutes les mauvaises années qu'on a eu des mauvaises habitudes. On veut régler les choses rapidement pour des problèmes qui perdurent depuis longtemps, qu'on n'a pas bien traités. Les mauvaises habitudes de vie qu'on a, on voudrait les soigner en prenant une pilule, puis une semaine, c'est réglé. La même chose dans la vie spirituelle. On voudrait que nos mauvaises habitudes spirituelles ou nos manques de bonnes habitudes spirituelles, on voudrait que ce soit réglé du jour au lendemain pour qu'on puisse... Hein, on prend une pilule, on fait une prière, on fait une parole, tout est réglé. Le lendemain, on revient... Tout est rétabli. Malheureusement, cette pensée-là a aussi infiltré nos groupes évangéliques. Beaucoup d'auteurs veulent nous régler nos problèmes rapidement en disant « Fais ces 7 étapes-là, puis tu vas être guéri. Fais ces 5 manières-là, applique ces 5 choses-là dans ta vie, puis demain, tu vas voir, ça va aller mieux. » La Bible est un livre qui nous enseigne que Dieu est patient et Dieu n'est pas dans le temps comme nous, on l'est. Nous, on est pressés. On veut que les choses se passent vite, se règlent vite, mais Dieu a tout son temps. Et Dieu veut plutôt qu'on apprenne à faire comme les vraies diètes, c'est-à-dire des bonnes habitudes de vie, une bonne alimentation, et puis les choses vont faire en sorte qu'on va être généralement bien en santé. C'est la même chose dans la vie chrétienne. On ne peut pas arriver du jour au lendemain que les choses se règlent juste par une pilule, juste par une phrase. Dieu veut qu'on ait des bonnes habitudes de vie, des relations qui nous permettent justement d'être constamment en train d'être en santé, comme des bonnes habitudes pour la santé physique. C'est vrai que le texte de ce matin nous parle un peu de ça. Il y a une solution rapide quand la maladie ou quand la santé est rendue à un point tel extrême. Il y a une solution drastique. Mais c'est une solution de dernier recours. Ce n'est pas la solution que Dieu veut préconiser dans nos vies. Dieu ne cherche pas à ce qu'on règle nos problèmes à l'instantané parce qu'on est rendu à l'extrême limite du manque de sagesse spirituelle. C'est une solution ultime qui est présentée ici ce matin. Mais vous allez voir que je crois... À travers le cheminement que vous allez voir avec le texte qu'on va faire ce matin, vous allez voir en cours de route que Dieu a préconisé une solution beaucoup plus lente, mais beaucoup plus permanente au problème de dépression et de déprime spirituelle. La solution est beaucoup plus lente, beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus difficile à appliquer que le remède quand on est rendu à la fin au bout de notre rouleau. Et c'est ce que je vais vous demander de faire en m'accompagnant dans ce passage-là, me suivre avec peut-être un regard nouveau sur le texte. On prend souvent ce texte-là pour parler du quand quelqu'un est malade physiquement et que là, on ne trouve plus d'autres solutions, on appelle les anciens. Mais je vais vous inviter à regarder un peu plus loin dans ce texte-là où il nous apprend à développer des relations saines qui nous permet de garder une santé spirituelle saine. Je vais lire le texte, Jacques chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 20. Je risque de lire une version un petit peu différente de la vôtre, simplement que je veux juste éclairer un petit peu avec du grec. Je ne vais pas expliquer le grec, mais ce que vous allez entendre est une version plus près du grec ou plus accrochée au grec. Alors, je vais juste vous demander d'être suivi dans vos Bibles et être ouvert à ce que je vous enseigne ici ce matin. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, faible ou sans force? On pourrait mieux lire. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade du faible. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris ou rétablis. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Comme je dis, regardez ce texte-là d'un œil nouveau. On prend souvent la première partie pour arriver à une guérison, et on pense souvent à ce texte-là en termes de maladie physique. Le texte dans l'original est beaucoup plus large que ça. Il parle vraiment de faiblesse, de quelqu'un en état de faiblesse. Il ne parle pas ici nécessairement de maladie physique, littéralement. Le texte parle d'être faible, affaibli, en léthargie, et il parle d'être rétabli, non pas guéri. Donc, le mot guéri peut être bien traduit, le mot malade peut être traduit, mais c'est un choix de traducteur. Le mot plus large, l'idée plus large, c'est d'être quelqu'un qui est faible, affaibli, peut être rétabli par la prière de la foi. Mais la réalité de ce texte-là, je crois, ce que ça veut nous enseigner d'abord et avant tout, c'est... Ce sont des relations matures entre croyants qui permettent de garder les croyants en santé ou en bonne forme spirituelle. Je vais juste faire un petit tour de la structure du passage, juste pour que vous me suiviez dans ce raisonnement-là, pour vous voir où j'en suis venu à cette conclusion-là. Le texte demande si quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Deuxièmement, s'il est dans la joie qu'il chante des cantiques. C'est une recette qu'on connaît bien. Si quelqu'un est faible ou malade ou sans force, qu'il fasse venir les anciens pour qu'il prie et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur. Et en prière, il pourra être guéri ou être rétabli. Et là, il y a un mot magique qui vient en plein milieu de la structure ici. C'est le mot « donc ». À cause de ce qui vient d'arriver, il va dire « donc », qui va nous amener à une conséquence, qui nous amène à nous dire à un comportement qu'on doit faire en conséquence de ce qu'on vient de voir. Et je pense que c'est le cœur du passage. Ce mot semble nous guider dans dire, voici qu'est-ce que vous devez faire sur une base régulière. Si la prière sauve ou rétablit le malade, voici ce que vous devez faire donc d'une façon plus, pas quotidienne, mais plus régulière, si on veut. Pas attendre l'extrême. D'abord, il dit, confessez les uns aux autres vos péchés. C'est ce qu'on doit faire. Et de prier en faveur des autres pour leur rétablissement. C'est un peu comme si l'image des anciens, c'était un exemple ou une illustration de l'idée générale, du principe général qui est mis après. C'est-à-dire, priez les uns pour les autres et confessez-vous les uns aux autres afin d'être guéris. Et si ça va en ultime recours, allez chercher les anciens. C'est une illustration du principe de base. Et finalement, la solution, la prière énergique ou la prière fervente va conduire à la guérison des gens qui sont affaiblis ou dans un état léthargique. Pourquoi on ferait ces choses? C'est simple, pour préserver la santé du corps, pour préserver la santé spirituelle et même physique, parce que souvent le péché, un péché répété dans une vie non confessée, mène souvent à une dépression ou souvent à des maux physiques. Le stress mène à des maux de ventre. Hein? C'est quelque chose de psychologique qui mène à quelque chose de physique. Et le spirituel fait la même chose. Un péché caché, un péché qui est gardé en nous, on va le voir plus tard, produit éventuellement quelque chose de physique en nous, produit une destruction, même dans la santé physique. Mais il y a aussi une destruction de la santé spirituelle qui peut avoir lieu. Je crois que le texte insiste sur l'idée d'avoir des relations matures. Confessez donc les péchés les uns aux autres. C'est l'idée principale du texte, c'est-à-dire les relations matures entre croyants vont permettre de ne pas arriver à un symptôme de dépression ou de faiblesse spirituelle. Donc, on va commencer avec le premier point. C'est juste pour que vous me suiviez dans la structure ici. Qu'est-ce que la confession dans ce contexte-là? Si vous avez un passé, un arrière-plan catholique, vous avez peut-être une certaine allergie à l'idée de la confession. C'est peut-être quelque chose dans qui vous fait dresser un petit peu les poils sur les bras d'entendre parler qu'il faut se confesser les uns aux autres. La confession ici, ce n'est pas un sacrement. La confession ici, ce n'est pas la confession de dire « je vais être libéré par une parole magique, je vais confesser mes péchés, puis là je vais être libéré, tout va être bien, tout va être rétabli. » Ce n'est pas ça qui est écrit ici. Ce n'est pas une confession de rituel qui a lieu ici, mais bien une relation entre deux personnes ou trois personnes qui se font confiance pour chercher ensemble la croissance avec le Seigneur. La confession, c'est de déclarer, d'avouer le genre de choses qu'on ne fait pas correct dans notre vie. C'est d'avouer. La première étape, c'est d'avouer, de reconnaître un comportement comme une faute ou un péché. Évidemment, derrière une vraie confession, il y a une repentance. Hein? Si je confesse un péché, c'est que je suis en train de dire « Oh, ce que je suis en train de faire là n'est pas correct. Ce que je suis en train de faire là n'est pas bien pour moi, n'est pas bien devant Dieu non plus. » La confession, c'est d'avouer un comportement qui nous cause du tort ou avec lequel on cause du tort à certaines personnes. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. C'est gentil. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, John. Tu parles vite? Merci. Vous avez ces quelques secondes pour vous rattraper. Dans le texte, ici, la confession, c'est un impératif. C'est un ordre. Ce n'est pas une option ici. Confessez donc. Nous, on peut prendre ça à la légère. Confessez donc. Ça a l'air un peu léger peut-être. Mais c'est un impératif présent. C'est-à-dire que c'est un impératif. C'est-à-dire que c'est un ordre. Ce n'est pas une option. Puis en plus, c'est au présent. C'est-à-dire que c'est au présent continuel. C'est-à-dire de continuellement confesser vos péchés. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois qu'on est mal pris. Puis qu'on est au bout du rouleau, mais c'est quelque chose qu'on fait sur une base régulière qui va garder notre santé spirituelle à un certain niveau. Ce n'est pas la seule solution, mais ça fait partie de la résolution du problème. Ça exige aussi, qu'est-ce que c'est la confession dans ce contexte-là? C'est une question de maturité aussi. C'est quelque chose qui nous enseigne à avoir de la maturité dans nos relations, pas simplement des relations superficielles. La Bible ne nous enseigne pas à juste se présenter le dimanche matin, se côtoyer un petit peu, dire « bonjour, comment ça va? » Et d'ailleurs, on le sait, la plupart du temps, le dimanche matin, tout le monde va bien. On passe les portes du bâtiment, là, puis on accroche un sourire. « Ça va bien, ça va bien. » J'entends rarement dans une église, dans une assemblée, des gens qui vont mal dès qu'on passe la porte. Quand on repasse la porte, ça recommence. Mais dès qu'on passe la porte du bâtiment, il y a quelque chose de magique et tout le monde va bien. C'est pas ce genre de relation-là que Dieu nous appelle à avoir ensemble. Ce sont des relations matures, des relations qui peuvent impliquer qu'on dise des choses qui sont pas belles à notre sujet. Hein, comme si le dimanche matin, on était tous parfaits, et quand on ressort d'ici, on n'est pas parfait. Mais la réalité, c'est qu'on montre toujours le côté parfait de notre personnalité quand on vient ici dimanche matin. C'est une relation de maturité parce qu'elle exige de la confiance de part et d'autre. Elle exige la confiance que je vais dire, « Hey, je vais dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je vais dire qu'est-ce que tout croche chez moi. Je vais te raconter si tu peux avoir assez de confiance en moi, puis si je peux porter assez de confiance, je vais te raconter ce qui ne va pas chez moi. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai des luttes dans ma vie, dans ma semaine. Ça ne paraît pas le dimanche matin, mais je lutte avec certaines choses quand j'arrive chez nous. Dès que je passe la porte, des fois, c'est des luttes avec la famille, des luttes avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, des difficultés au travail. » Il y a plusieurs choses, des problèmes qui se remettent sur nos épaules dès qu'on passe la porte ici. C'est dans une relation de confiance qu'on peut commencer à dire, « Hey, moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, j'ai de la difficulté à dealer avec ça. Il faut que tu m'aides, il faut qu'on prie ensemble pour ces choses-là. » Ça prend de la confiance, ça prend de la maturité aussi pour celui qui entend votre confession. Il n'est pas facile d'entendre son meilleur ami dire qu'il y a de la misère peut-être avec la pornographie. Ça peut être difficile d'entendre qu'il y a de la misère dans sa relation avec son épouse, par son attitude, par son manque d'amour. Il n'est pas facile d'entendre ce genre de confession-là, et en fait, c'est facile d'entendre ça, puisqu'on ne peut pas fermer nos oreilles. Mais ce qui n'est pas facile, c'est de savoir quoi faire avec. Il est difficile de savoir quoi faire avec des telles confessions parfois. Il est difficile de savoir quoi faire avec ces choses-là, c'est-à-dire de ne pas les garder en soi, de ne pas aller les répandre aux autres personnes qui ne sont pas dans le secret. Ça peut être difficile de gérer ça en tant que... c'est ton meilleur ami, tu ne le voyais pas comme ça. Hein? De perdre l'image qu'on avait de la personne, de perdre l'espèce d'image parfaite qu'on a de certaines personnes, de la perdre au travers des énoncés comme celui-là, il faut de la maturité, il faut apprendre à grandir dans ce genre de relation-là. C'est aussi d'apprendre à pouvoir le gérer, c'est-à-dire de ne pas être blessé, de ne pas virer, de tourner à l'amertume des choses qu'on apprend sur nos amis, sur nos gens les plus proches. La confession authentique, selon les Écritures, selon ce que je vois des Écritures, nécessite une part importante de sanctification, ou produit une part importante de sanctification aussi. On ne peut pas changer ce qu'on ne reconnaît pas comme mal. Les choses ne peuvent pas être transformées dans notre vie si, au point de départ, je ne reconnais pas que je suis un pécheur. Si je ne reconnais pas le péché précis dans ma vie. Et là, ce n'est pas une recette que je vais vous dire. Mais je vais vous dire quelque chose qui me travaille depuis des années. Souvent, quand on confesse nos péchés à Dieu, on va dire, « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. » Puis là, on va commencer une série de requêtes. Là, on va commencer à prier Dieu. Mais si on ne reconnaît pas ce qu'on a fait, comment on peut s'en repentir? Hein? Si je ne dis pas, « Seigneur, Seigneur, pardon, j'ai menti hier soir à ma femme. » J'ai dit des choses qui n'étaient pas correctes, j'ai blessé quelqu'un. Si on n'apprend pas à vivre avec l'état dans lequel on est pécheur, si on n'apprend pas à le nommer, si on n'apprend pas à le dire, il est impossible ensuite de vouloir le corriger. Je ne me repens pas de quelque chose que je n'admets pas. Si je n'ai pas commis une chose, je n'ai pas besoin de m'en repentir. Et la confession comporte une part importante de repentance. Sinon, c'est juste de libérer son fardeau sur ses épaules, de quelques poids qu'on garde pour paraître bien, en fait. Il se passe plusieurs choses au moment où on commence à confesser nos péchés. On commence à reconnaître, premièrement, qu'on peut faire du tort aux autres par nos fautes. On commence à reconnaître le tort qu'on a pu faire peut-être à la personne à qui on confesse même ce péché-là. Il faut apprendre à véritablement avouer en reconnaissant les fautes qu'on commet. Il y a un livre que vous comprendrez pourquoi, j'ai oublié d'amener ce matin, je voulais vous le montrer, mais je vais faire une citation de ce livre-là. Et il parle justement de la confession, et c'est une image que j'ai trouvée bonne pour réaliser qu'est-ce que vous pouvez vouloir dire confesser. La confession est la preuve verbale que nous reconnaissons les faits. Quand le policier exige du malfaiteur qu'il passe aux aveux, c'est pour qu'il convienne de l'accusation portée contre lui. Ce n'est pas pour discuter de la nature des choses. Quand le policier veut une confession, ce qu'il veut avoir, c'est que tu avoues que tu as fait le crime en question. Confesser nos péchés à Dieu, c'est un peu comme reconnaître notre attitude de péché et notre mauvaise attitude envers lui. Dieu, quand on confesse nos péchés, s'attend à ce qu'on reconnaisse, pas seulement qu'on a fait les choses, mais le mal qui est inclus dans ces choses-là. Il veut qu'on comprenne que c'est du mal qu'on a fait. Nous confessons nos péchés, nous confessons les choses qu'on fait mal ou de mal. L'autre chose que ça provoque, commencer à confesser nos péchés dans une situation avec des croyants matures ou en développement vers la maturité, on se place dans une situation de redevabilité. Et cette redevabilité-là, je l'apprends avec les années, provoque beaucoup de croissance chez le croyant. Trop souvent, on dit craindre Dieu, mais dans la réalité, quand on pêche tous les jours, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire « je m'en fous ». Quand je m'enfonce dans un péché, quand je continue perpétuellement à faire un péché, je suis en train de dire à Dieu « je m'en moque ». Et même si on voit dans la Bible, même si on connaît la Bible depuis 20, 25, 30 ans, on peut jouer à ce jeu-là dans nos vies. Mais pour une raison qui est difficile à attraper jusqu'à un certain point, c'est que quand on voit quelqu'un en face de nous, puis on le confesse à cette personne-là, à quelqu'un qui nous est cher, il y a un sentiment de redevabilité qui s'installe. Puis on a quasiment plus peur de la personne de revenir la semaine prochaine et de dire j'ai encore tombé. Semaine après semaine, redire à la personne, et ça devient gênant. Et je pense que Dieu a mis l'Église entre nos mains, a mis des relations matures entre nous, il a placé des principes entre nous comme ça, dans le but de provoquer ce sentiment-là d'indignité devant nos proches, devant les frères et sœurs en qui on a confiance, pour provoquer un désir de croissance et de sanctification. Quand on commence à confesser nos péchés, on est maintenant disponible pour recevoir la guérison et recevoir le pardon de nos péchés et d'essayer d'être libéré de ces péchés-là qui pèsent dans nos vies. Hein, il y a une libération qui vient du pardon réel de Dieu lorsqu'on confesse réellement nos péchés. Mais comme je le disais tout à l'heure, seule une relation mature avec un ou deux individus peut permettre ce genre de croissance-là. Ça ne peut pas se faire le dimanche matin sur le coin d'une table. Ce n'est pas le genre de choses qui peut se faire à la sauvette. C'est des choses qui prennent du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez faire confiance à quelqu'un au point de lui dire le fond de votre cœur. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez avouer les choses, les pensées les plus folles que vous avez parfois, les sentiments que vous avez envers certaines personnes. Vous ne les avouerez pas du premier coup à quelqu'un juste parce que la Bible dit « confessez vos péchés ». Ça prend un développement, ça prend du temps investi dans cette relation-là pour provoquer cette croissance-là. Maintenant, si on était juste là, on parlerait peut-être d'un petit groupe de soutien qu'on peut trouver un peu partout. Mais la clé de cette réussite-là, la clé de la réussite des relations authentiques, il faut que la parole de Dieu soit au centre de ces relations-là. On ne peut pas faire ce genre de relation-là avec les autres si la Bible, si la parole de Dieu n'est pas incluse en plein milieu de cette relation-là. Ça ne peut pas être une relation qui est juste faite sur la redevabilité en tant que personne à personne, parce qu'on est en train de lutter encore là avec nos propres moyens. Beaucoup de groupes dans le monde ont essayé ce genre de groupe de soutien-là, mais il y a un échec parce que Dieu n'est pas au centre de cette relation. Parfois, je ne sais pas si vous autres vous lisez ça, quand vous achetez une nouvelle, je vais dire bébelle pour les gars, mais un nouveau gadget ou un nouvel outil ou quoi que ce soit, un nouvel appareil dans la maison, est-ce que vous lisez le manuel d'instruction? Très peu de gens le font. Je sais qu'il y a quelques-uns qui le font. Mais très peu de gens le lisent, le manuel, avant d'utiliser l'appareil. La plupart des gens utilisent le manuel lorsqu'il est trop tard, lorsqu'il y a un problème, lorsque ça saute, lorsque ça ne fonctionne plus comme c'est supposé. Là, on va voir le manuel, on va chercher à la fin, puis il y a une liste de choses à faire, à vérifier si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait. Mais parfois, on utilise la Bible comme un manuel d'instruction. On va l'utiliser simplement quand on a besoin, quand la crise est là. Mais la parole de Dieu devrait nous nourrir chaque jour, quotidiennement, en nous-mêmes, mais au travers de nos relations les uns avec les autres aussi. La parole devrait faire partie de nos relations entre frères et sœurs. Ça a l'air dur à dire ça, ça a l'air bizarre de dire ça. Mais combien de relations j'ai vues dans le passé dans lesquelles le nom de Dieu n'était jamais mentionné, au travers de centaines d'heures d'activité, Dieu n'était pas présent. En fait, il était là. Mais nous, on ne lui donne pas la place qu'il devait avoir. Les relations entre chrétiens devraient avoir la parole de Dieu au centre avant que les problèmes arrivent, non pas quand les problèmes sont arrivés. On va aller voir aussi ce que ça produit l'absence de confession. Pardon. Parce que de ne pas confesser, parce que là, on peut dire, je n'ai pas besoin de ça, moi, je m'arrange avec Dieu toute seule, mais on peut voir qu'est-ce que peut provoquer l'absence de confession. Premièrement, lorsqu'on n'est pas dans des relations de redevabilité, il est bien facile de cacher ça sous le tapis. Hein? Personne n'a besoin de savoir les pensées secrètes de mon cœur. Alors, je peux les laisser bien cachées dans n'importe où que je suis dans la maison. Je n'ai pas besoin de faire savoir à personne. Et donc, il y a juste moi qui, c'est basé seulement sur ma discipline personnelle que de dire, je vais confesser à Dieu et je vais travailler ma sanctification. On a besoin d'entrer dans des processus de confession les uns avec les autres parce que ça nous pousse à faire le ménage dans notre vie. Tout seul dans notre vie, on est porté à mettre les choses de côté. C'est facile de dire « j'éteins l'esprit ». Le Seigneur veut nous parler par des voix, il nous parle par sa parole, mais si on cache toutes ces choses-là, comment Dieu pourrait-il nous parler? Le fait de confesser les péchés les uns aux autres nous permet de provoquer la confession, provoquer la guérison. Dans ma vie personnelle, pour quelques-uns qui me connaissaient un petit peu plus, j'ai fait 6 infections au pied dans les 2 dernières années et demie à peu près. 6 infections majeures. Bien, ces infections-là sont causées par une petite bébite, une petite bactérie qui entre par un minuscule trou et puis qui infectent mon corps, au point tel qu'à un moment donné, j'aurais pu, si ça n'avait pas été traité, j'aurais pu perdre l'orteil, le pied, puis je pourrais mourir de certaines infections. Bien, un péché non confessé, une situation de vie non confessée, non en règle avec le Seigneur, c'est comme une infection. C'est une petite particule qui rentre des fois par une petite chose. Une petite graine d'amertume dans ton couple, une petite chicane avec quelqu'un, une petite pensée de frustration avec un frère ou une sœur, avec une situation au travail. On laisse cette petite graine-là s'infecter en nous. Ça grandit, et ça provoque, selon les Écritures, une mort. Ça provoque quelque chose de mortel en nous. Pas nécessairement la mort physique, bien que je crois que certaines personnes meurent à cause qu'ils s'entêtent dans leur péché, des croyants. Je pense que Dieu juge son peuple aussi. Mais le péché non confessé dans notre vie, c'est une infection qui commence la plupart du temps par quelque chose de qui ressemble bénin, qui semble inoffensif, comme une infection que j'ai eue dans mes pieds. Une petite ouverture de rien du tout, et j'ai eu 6 infections en 2 ans et demi. Ça provoque l'abattement spirituel. Un péché non confessé, un péché qui perdure dans notre vie, une situation dont on ne s'occupe pas spirituellement, va provoquer de l'abattement spirituel. Hein? Peut-être qu'on n'utilise pas le mot dépression, on n'aime pas beaucoup le mot parce qu'il y a un terme médical associé à ça, mais la déprime spirituelle, l'abattement spirituel, et je crois que le texte de ce matin nous parle de ça, en fait, de l'abattement spirituel, de la dépression spirituelle, et c'est la première conséquence d'un péché non confessé. Le psaume 32, si vous êtes habitué, vous pouvez tourner, mais je vais lire rapidement. Psaume 32, les versets 1 à 5, on va voir la situation de David, où justement il confesse avoir confessé, et la situation dans laquelle il était avant de confesser. Soit dit en passant, les prédicateurs, je ne sais pas si les gens ont l'habitude de vous le dire, mais il y a un son magique dans leurs oreilles, entendre le papier tourner, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Psaume 32, les versets 1 à 5. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ici, l'auteur, il exprime comment il se sent dans la situation où il n'avait pas confessé son péché, il l'avait gardé caché en lui-même, comme si ça ne se voyait pas à l'extérieur. Mais il a essayé de cacher son péché, de camoufler son péché dans sa vie et de passer par-dessus en mettant un péché par-dessus l'autre. Et avec ça, il décrit qu'il se sentait comme si son corps était en train de mourir. C'est devenu physique pour lui. Dans son expression, je ne sais pas si ses os se desséchaient vraiment, mais il se sentait comme ça. Il était à un état où il se sentait en train de mourir, de pourrir à l'intérieur parce qu'il gardait son péché bien caché, bien en vie en lui. La deuxième chose que ça provoque, un péché non confessé, c'est des remords qui vont vous paralyser. Le péché non confessé nous paralyse. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, ça dit ceci. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Tandis que la tristesse du monde produit la mort. On a un bel exemple de ça avec Judas. Judas a regretté ce qu'il faisait. Il y a eu des remords. Il y a eu une tristesse qui n'est pas de la part de Dieu. Il se sentait mal avec ce qu'il venait de faire. Et au lieu de confesser son péché, le poids était rendu tellement grand sur ses épaules. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il en est mort littéralement, lui. Il est allé se tuer. Il ne pouvait pas porter la faute qu'il avait sur les épaules. On vit avec une culpabilité parfois, si on ne la confesse pas, si on ne demande pas pardon à Dieu pour notre péché qu'on a commis, on vit avec un poids qui nous paralyse aussi dans des situations spirituelles. Hein? Il y a des voix qui vont vous faire entendre dans vos oreilles. Tu ne peux pas faire ça pour l'Église. Regarde ta vie. Regarde dans quel état tu es. Regarde la situation dans laquelle le péché non confessé, non libéré par Dieu, c'est un péché qui nous empêche de fonctionner. Une autre chose que ça provoque de ne pas confesser un péché, c'est l'enlisement dans d'autres péchés. Parce que la seule solution au péché, le seul remède au péché, c'est la confession, le pardon, la repentance, et on continue. C'est le seul remède biblique contre le péché. Il n'y en a pas d'autre. On peut essayer de faire plein de choses, et tout ce qu'on va essayer de faire va n'être que péché. Toutes les actions qu'on va porter pour essayer de réchapper à un péché, s'ils ne sont pas d'origine du pardon et de la repentance, vont automatiquement être un autre péché qu'on va mettre par-dessus. Une histoire bien connue, David et Bathsheba. Premier péché, oups, là on a un problème. Il y a quelque chose d'apparent qui va faire en sorte que tout le monde va savoir que j'ai péché. On va le cacher par un autre péché, et un autre péché, et un autre péché jusqu'à ce que la repentance arrive, que le péché soit confessé et que la vie soit rétablie. C'est la même chose dans tous nos péchés. Si on ne prend pas le moyen que Dieu nous donne, on prend alors nos moyens pour résoudre nos péchés. Inévitable. Et finalement, un péché non confessé, un péché qu'on pratique et qu'on ne confesse pas, et qu'on garde en nous, qu'on nourrit, qu'on protège, qu'on garde, qu'on essaie de le camoufler, provoque la mort peut-être, mais provoque certainement un jugement de la part de Dieu. Dieu ne laissera pas ses enfants impunément pécher, vivre dans l'état dans lequel ils sont, conserver ces fautes-là, les camoufler en plus, et dire, c'est correct, vas-y, continue à servir le Seigneur comme tu le faisais, mais vis dans ta vie de péché. Dieu ne tolère pas ces choses-là. Dieu corrige son peuple. Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11, nous parle de ces choses-là. Ça dit ceci. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Pour moi, la description qu'on voit du faible dans Jacques, du malade, dans plusieurs traductions, mais du faible, découle pas tout le temps. Je ne pense pas que chaque fois qu'on est malade, qu'on peut dire qu'il y a un péché. Ce n'est pas nécessairement automatique. Par contre, je peux dire que beaucoup de fois, un péché qui est conservé dans notre vie, dans notre cœur, qui n'est pas confessé, repenti et transformé, va découler en une maladie peut-être physique même, mais certainement en une déprime, un abattement spirituel. Et à un moment donné, ça vient tellement extrême que là, Dieu dit par Jacques dans son épître, il dit, là, vous avez besoin de la solution extrême. Là, on va aller au bout, on va aller chercher les anciens. C'est la solution extrême parce que vous êtes rendu à l'extrémité de votre péché. Vous en êtes rendu en être malade de garder votre péché dans votre vie. Alors, vous avez besoin d'une solution, d'un remède extrême, pas un remède de grand-mère. Et je ne veux pas dire, insulter personne qui est en grand-maman et a des remèdes, mais je fais référence aux remèdes que j'ai parlé au début, des choses qui sont vraiment absurdes. Je reviens au cœur du passage et le verset 16 nous enseigne véritablement l'importance, le centre de ce passage-là, c'est de dire confessez les uns aux autres vos péchés et on va en arriver à la deuxième partie de la guérison, c'est-à-dire la prière. Confesser tout seul, je l'ai dit tantôt, c'est pas une solution. La seule confession d'un péché, avouer son crime, ne règle pas le problème, mais c'est le début de la guérison. Puis ici, encore une fois, confesser nos péchés, c'est pas l'idée de dire, confesser en disant, « Hey, on va venir dimanche matin, on va aller devant sur l'estrade, puis je vais commencer à dire ce qui ne va pas dans ma vie. » C'est pas une confession publique ici non plus, nécessairement. C'est une confession les uns aux autres. C'est dans le cadre d'une relation, un à un à deux, un à trois au maximum peut-être, une relation mature. C'est dans ce cadre-là qu'on parle ici de confesser les péchés. C'est pas de dire, se lever en pleine réunion, en pleine assemblée, puis dire, voici, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pas l'idée derrière ça. C'est pas une recette magique. C'est pas le fait qu'on va énoncer la confession qu'on va être guéri. Important de réaliser ça. Parce que finalement, le deuxième élément essentiel, c'est la prière. Et c'est ce à quoi j'arrive maintenant. La prière est essentielle pour compléter ce processus de guérison-là dans une relation. C'est une relation qui va nécessiter beaucoup de maturité aussi. Je disais ça dans la confession, mais je le dis aussi dans la prière. La maturité et l'humilité que ça nécessite de, d'avoir des relations avec lesquelles on peut, des gens avec qui on peut prier ensemble. Mais pas juste dire, Seigneur, merci pour telle chose, rapidement, encore une fois, sur le coin, j'ai un besoin, j'ai une prière. C'est correct de faire ça. Mais la prière pour guérir, pour rétablir, pour maintenir la santé spirituelle, c'est pas ce genre de prière-là qu'on parle. C'est une relation mature, dans laquelle on est capable d'accepter les requêtes et les requêtes nous-mêmes de les reporter à Dieu et non pas les reporter aux gens autour de nous. C'est une maturité aussi parce qu'au lieu de tourner vers des solutions humaines, parce que trop souvent, tu pêches, je sais comment faire pour régler ça. Hein? Dans une relation, la première chose avec un ami qu'on veut faire, quand quelqu'un ne va pas bien, il dit, « Ouais, mais j'ai la solution pour toi, je sais comment faire. » Non, une solution mature va offrir, oui, du soutien, mais va offrir surtout de tout de suite se tourner vers Dieu. C'est Dieu qui est la source de la guérison. Ce n'est pas une recette magique ici. Une relation mature de dire, « Hey, on va prier ensemble là-dessus. Et je vais continuer à prier pour toi dans la semaine. Et jusqu'à ce que ce soit rétabli, je vais continuer à prier. » Ce n'est pas le genre de prière qui se pratique en sortie du bâtiment, encore une fois. Quand on arrive le dimanche matin, quelqu'un nous confie quelque chose, puis là, je vais prier pour toi. Puis trop souvent, ce qui arrive avec ces promesses-là, vous le savez, la minute où on passe les portes, encore une fois, il y a quelque chose de magique qui se passe. Notre mémoire disparaît et on oublie de prier pour ces gens-là. C'est pourquoi cette prière-là se fait dans une relation mature, entre croyants désireux de voir l'autre véritablement être transformé par la puissance de Dieu. J'ai trop souvent pratiqué ce genre de prière-là, c'est-à-dire, je vais prier pour toi, Dieu va prendre soin de toi. Puis là, on se voit la prochaine fois, puis, et on est gêné de dire, oups, je t'ai complètement oublié. Ça prend une relation intime et une relation de confiance, une relation personnelle avec la personne qui va nous inciter à continuer à prier pour la personne, même quand on ne la verra plus. Le texte nous continue avec une illustration. Le texte nous parle ce matin de qui peut faire ce genre de prière-là. Parce que là, on parle d'une intervention grave. Hein? On dit, la personne est malade, la personne est rendue affaiblie, la personne est rendue complètement dévastée par sa situation personnelle. Et là, on a besoin de faire venir les anciens. Et après ça, on dit, confessez vos péchés, priez les uns pour les autres. Et là, on pourrait dire, ouais, mais je ne peux pas prier comme ça, moi. Hey, je n'ai pas la force, ce n'est pas ma spécialité, la prière de la foi. Ce n'est pas ma spécialité, la prière, pour dire, hey, comment je vais faire? Dieu ne m'écoutera pas. C'est tellement grave ta situation, je peux pas. C'est pas à moi de prier pour toi. Va voir les gens qui ont de la foi pour ça. Et là, je pense que Jacques a compris cette idée-là. Il l'a prévenu en disant ceci dans la suite de son texte. Il va donner un exemple tiré de l'Ancien Testament. Il va dire, c'est un homme comme vous et moi, Élie. Hein? Un homme comme vous et moi. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que chacun d'entre nous, on peut faire cette prière-là. Chacun d'entre nous, on est capable de prier Dieu pour le soutien, la transformation des frères et des sœurs autour de nous. Intéressant, pourquoi il a choisi Élie? Il aurait pu choisir d'autres hommes, il aurait pu choisir Moïse, il aurait pu choisir d'autres hommes dont la prière s'est exaucée. Mais je crois qu'il a choisi Élie parce que justement, Élie est un homme avec une faiblesse dans sa vie. Élie, c'est un homme qui, si vous vous souvenez de l'histoire un petit peu, si vous voulez voir l'histoire dans 1 Roi 19, là, Élie vient d'avoir une victoire incroyable. Il vient de tuer 400 personnes, OK? Un contre 400, et c'est lui qui a gagné. Il a fait beaucoup d'efforts physiques. Et là, tout d'un coup, il se met à avoir peur un peu plus loin. Je résume un peu l'histoire rapidement. Il se met à avoir peur d'une reine qui en veut à sa tête. Et puis là, il se sauve et il veut mourir. Il tombe en état de déprime spirituelle lui-même. Lui-même qui a fait des grandes choses juste avant, tout de suite se retrouve, puis il a peur d'une reine. Qu'est-ce que peut faire une reine? Il y avait 400 hommes armés, puis il a peur d'une reine. Je peux comprendre sa situation, mais il est en déprime. Et pourquoi je pense que Jacques utilise celui-là? C'est parce qu'il nous ressemble. Hein? Quand l'obstacle devient devant nous, waouh, la foi est des fois parfois très grande, mais des fois la foi rencontre un mur. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas assez haute. On est en déprime. Notre Dieu rapetisse à mesure que l'obstacle grandit. Et on a peur. Et Élie est dans cette situation-là. Et c'est Élie, c'est ce même homme-là, qui nous cite un exemple. Voici, cet homme-là n'a pas prié pour qu'une seule personne dans un coin obscur guérisse. Il a prié pour qu'il ne mouille pas pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a reprié et ça a recommencé. Une prière tellement puissante pour un homme aussi démuni qui voulait mourir parce qu'il avait peur d'une personne. Il avait perdu sa confiance que Dieu pouvait le protéger. Peut-être qu'il avait peur avec raison aussi, mais il était en déprime suite à ça. Seulement, encore une fois, une relation intime avec quelqu'un qui peut permettre ce genre de relation-là guérissante. Une relation qui permet la croissance dans nos vies. Une relation où Dieu est au centre par sa parole, Dieu au centre par sa présence dans la prière. Il y a seulement des relations intimes, matures, qui se développent semaine après semaine dans la présence du Seigneur et des relations authentiques qui peuvent permettre de guérir ces choses, de ces choses-là. Comme je l'ai dit dans ma prière au début, Dieu veut notre sanctification. Le désir de Dieu, ce n'est pas de nous laisser dans l'état dans lequel on était lorsqu'on s'est converti. Dieu ne veut pas qu'on nous laisse dans l'état misérable du péché. Il veut qu'on en sorte. Il nous donne des outils pour le faire. Et c'est pourquoi je trouve intéressant, il rajoute les versets 19 et 20 ensuite. Comme je dis, on prend souvent ce bloc de versets-là en trois blocs. On prend les anciens pour la guérison du malade, confesser nos péchés, et ensuite aller chercher le frère qui est dans le péché pour le ramener dans la voie qui était perdue. Mais moi, je crois plutôt que c'est un bloc qui se tient. L'idée ici, c'est de développer des relations matures dans lesquelles on va confesser nos péchés, on va garder des relations vivantes avec le Seigneur et avec les gens autour de nous, face aux péchés, face aux situations graves de notre vie, pour prendre position puis grandir. Pourquoi il conclut avec 19 et 20? Parce que ça peut prévenir des gens de la mort. On va les lire ensemble dans un instant. Dieu veut nous faire bénéficier, pas d'une vie plate, pas d'une vie chrétienne abattue. Dieu n'a pas envie d'avoir des croyants. Son désir, ce n'est pas d'avoir des croyants abattus, mais des croyants qui sont joyeux, remplis de puissance, actifs pour lui, qui sont capables de témoigner comme des vrais ambassadeurs pour lui. Pour ça, il a besoin des gens en santé spirituelle. Mais Jean, je vais revenir avec Jean 5, 19 et 20 pour voir combien ça complète bien ce bloc-là dans la pensée de Jacques et de la guérison spirituelle. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan. Il n'est pas obligé de nous avoir dans son Église pour faire ce qu'il a à faire. Dieu veut qu'on soit là. Dieu veut qu'on soit transformé. Dieu veut qu'on aide à transformer les autres et qu'on manifeste sa gloire partout autour de nous par des relations vivantes et dynamiques avec lui et avec les autres. C'est pourquoi Dieu veut qu'on ait des relations préventives. Dieu veut qu'on ne se laisse pas aller jusqu'à la déprime, mais qu'on a des relations préventives dans lesquelles on va s'exercer jour après jour et dans lesquelles on va garder une santé spirituelle correcte. Et quand le verset ici, quand je reviens ici avec le texte, il dit, si vous avez des relations authentiques, si vous avez ce genre de relation-là dans laquelle vous confessez vos péchés, dans laquelle vous vous repentez, vous vous priez les uns pour les autres activement, de façon fervente, pour vous garder vivant spirituellement, vous allez peut-être permettre à des gens de ne pas s'égarer trop loin dans la vérité. Vous allez peut-être permettre à des gens de ne pas aller trop loin dans leurs péchés et de les ramener avant qu'il soit trop tard, avant que Dieu vienne faire un jugement ou avant que leur témoignage de Dieu soit brisé. Vous allez pouvoir intervenir dans la vie des gens. Vous allez pouvoir avoir un impact dans les gens autour de vous avec une relation comme celle-là, en épargnant les gens de quoi? De s'égarer dans le péché, de faire péché par-dessus péché, et ensuite de trouver le jugement de Dieu, qui est beaucoup plus douloureux que de faire de la médecine. Hein, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais c'est vrai aussi pour la santé spirituelle. Il vaut mieux se garder en forme spirituellement que d'être malade, et après ça, avec l'humiliation que ça comporte, de trouver obligé de revenir à Dieu complètement et d'être à recommencer un petit peu comme à zéro. Je vous dirais que Jésus lui-même a révolutionné le monde. Jésus a révolutionné le monde avec cette technique-là des relations intimes. Pendant 3 ans et demi, il s'est tenu avec une douzaine de gars particulièrement, dans lesquels il s'est investi dans des relations authentiques où la parole était le centre, la formation était le centre, la croissance était le but, pour ensuite être équipé pour faire le ministère qu'ils étaient destinés à faire. Mais c'est la même chose dans l'Église aujourd'hui. L'Église, la croissance individuelle et en nombre, va passer par l'investissement qu'on va faire dans les relations les uns avec les autres. L'Église ne grandit pas à coup de nécessairement juste de croisades. L'Église grandit en profondeur, en relations interpersonnelles, authentiques, centrées sur Dieu. Ce que je vous invite à faire, parce que je crois que le texte nous invite à faire ceci, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous n'êtes pas déjà dans une relation dans laquelle vous êtes en train de vivre ce genre de maturité spirituelle-là ou de relation spirituelle-là avec les autres, il est temps que ça commence. Trouvez-vous des personnes de confiance. Vous savez à qui vous avez confiance. Vous connaissez les frères et les sœurs qui sont fidèles autour de vous. Cherchez ces relations-là. Cherchez ces personnes-là. Cherchez la présence de Dieu à travers les relations les uns avec les autres. Engagez-vous dans des relations qui vont faire une différence dans votre vie. Si votre spiritualité en ce moment, si votre vie spirituelle n'est pas au top, si vous n'êtes pas en train de dire, si vous n'êtes pas au maximum dans votre désir pour le Seigneur, le premier remède, entrez dans une relation qui va provoquer la croissance dans vos vies. Ça a l'air comme une solution magique, comme j'ai dit au début. Non, parce que ça va être difficile. Ça va être difficile de vous faire confiance. Ça va être difficile quand la personne va trahir votre confiance. Ça va être difficile quand la personne va se choquer contre vous, va vous porter des jugements quand vous allez avouer vos péchés. C'est sûr qu'il va y avoir des accrochages. C'est sûr qu'il va y avoir des demandes de pardon. Mais il va certainement avoir de la place pour la croissance aussi à travers des relations comme celle-là. Jésus a fait ça, Paul a fait ça, et la Bible, avec Jacques, entre autres, nous invite aussi à avoir des relations dans lesquelles on est redevable, dans lesquelles on est authentique, dans lesquelles Dieu est pleinement le centre, complètement, de nos vies et de nos relations. Je prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que ta parole s'est rendue jusqu'à nous, parce que tu as eu le courage, je dis le courage parce que ces 12 hommes-là qui ont commencé avec toi au début, et ça a pris du temps avant qu'ils comprennent, et comme nous, on a de la misère à comprendre des fois aujourd'hui, c'est long. Seigneur Dieu, on veut apprendre de toi, apprendre à être transformé, et transformer le monde autour de nous, parce que tu nous as donné la manière.